Chapitre 10. Cette journée se passa à peu près comme la précédente. Madame Hurst et Miss Bingley demeurèrent auprès de la malade une partie de la matinée. Elle continuait à se rétablir, quoique lentement. Le soir, Elisabeth se rendit au salon où la famille était réunie. Monsieur Darcy écrivait, Mademoiselle Bingley assise près de lui et l'œil sur son papier suivait la trace de sa plume, Monsieur Hurst et Monsieur Bingley jouaient au piquet et Madame Hurst regardait le jeu. Elisabeth prit son ouvrage et s'amusa à écouter Monsieur Darcy et sa voisine. Les louanges qu'elle lui prodiguait sur son écriture, la régularité de ses lignes, la longueur de sa lettre et l'indifférence avec laquelle il les recevait formaient un contraste curieux, et leur dialogue confirma l'opinion qu'Elisabeth s'était faite de ces deux personnages. « Combien Miss Darcy sera charmée de recevoir une aussi longue lettre ?» Il ne fit point de réponse. « Vous écrivez bien vite. » Vous vous trompez, j'écris plutôt doucement. Que de lettres vous devez écrire dans le courant de l'année, et des lettres d'affaires aussi, combien je les trouverais ennuyeuses. Heureusement, c'est mon partage et non le vôtre d'en écrire. Dites, je vous prie, à votre sœur le vif désir que j'ai de la revoir. Je lui ai déjà dit une fois, d'après vos ordres. Je crois votre plume mauvaise. Laissez-moi la retoucher, j'ai un talent pour les tailler. Je vous remercie, je les taille toujours moi-même. Dites à votre sœur que je suis enchanté d'apprendre qu'elle fasse autant de progrès sur la harpe. Je vous prie de lui faire savoir aussi que je suis tout enthousiasmé de son charmant paysage. Je le trouve infiniment mieux dessiné que ceux de Mademoiselle Grantay. Permettez-moi de remettre vos compliments à une autre fois. À présent, j'ai trop peu de papier. Oh, je n'y tiens pas beaucoup. Je la verrai au mois de janvier. Lui écrivez-vous toujours des lettres aussi longues et aussi jolies, monsieur Darcy ? Elles sont ordinairement longues, mais jolies, ce n'est pas à moi d'en décider. Je suis persuadé qu'une personne qui écrit facilement une longue lettre doit bien écrire. Vous avez mal choisi votre compliment pour Darcy, Caroline, s'écria son frère, car il n'écrit pas avec facilité, il cherche trop les grands mots, n'est-il pas vrai, Darcy ? Mon style est bien différent du vôtre. Oh ! S'écria Mademoiselle Bingley. Charles écrit sans le moindre soin. Il oublie la moitié de ses mots et barbouille le reste. Mes idées viennent si rapidement que je n'ai pas le temps de les exprimer, et par là mes lettres sont souvent inintelligibles pour mes correspondants. Votre modestie, monsieur Bingley, dit Elisabeth, doit désarmer la critique. Il n'y a rien qui soit plus trompeur, dit Darcy, que cette apparente humilité. Ce n'est souvent qu'une insouciance de l'opinion d'autrui ou une manière plus adroite de se faire honneur. Laquelle des deux m'attribuez-vous ? Le désir de vous faire honneur, dit Darcy, car réellement vous tirez vanité des fautes que vous faites en écrivant, parce que vous les croyez produites par une imagination vive et une certaine étourderie, qui, si elle n'est point estimable, est du moins, selon vous, très intéressante. La facilité de faire vite est quelquefois trop prisée par la personne qui la possède et qui ne voit pas les imperfections de son ouvrage. Quand vous avez dit ce matin à Madame Bennet que si vous quittiez Netherfield, la résolution serait prise et exécutée en 5 minutes, vous aviez l'intention de vous faire un compliment. Et cependant, qu'y a-t-il de si louable dans cette précipitation qui doit vous faire négliger beaucoup d'affaires et ne peut être d'aucun avantage ni pour vous ni pour les autres ? Fi donc, s'écria Bingley, c'est avoir trop de mémoire de se rappeler le soir les folies du matin. Sur mon honneur, ce que j'ai dit de moi est très vrai, et je pense de même maintenant. Ce n'est donc pas un air que je me suis donné seulement pour plaire aux dames. Je ne doute nullement de votre bonne foi, mais je suis loin d'être convaincu que vous partissiez avec tant de précipitation. Votre conduite serait aussi soumise au hasard que celle d'aucun autre. Et si au moment du départ, un ami vous disait « Bingley, vous feriez mieux de rester ici encore une semaine », vous suivriez probablement son conseil, et s'il vous disait un mot de plus, vous pourriez bien rester un mois. « Par ceci, vous nous faites voir, dit Elisabeth, que M. Bingley ne s'était pas rendu justice. Vous venez de nous montrer son caractère sous un point de vue beaucoup plus favorable qu'il ne l'avait fait lui-même. Je suis charmé, dit Bingley, que vous preniez ce que mon ami dit de moi pour un éloge. Mais je crains bien que ce ne soit pas là sa pensée, car bien certainement il m'aimerait mieux si, dans une pareille circonstance, je refusais net et partais sur le champ. Croirait-il donc l'étourderie de votre premier dessein réparée par l'entêtement que vous mettriez à le suivre ? Je ne puis réellement vous expliquer cela. Il faut que Darcy le fasse lui-même. Vous voulez que j'explique une opinion qu'il vous plaît d'appeler la mienne, bien que je ne l'ai pas adoptée. Mais en imaginant les choses comme vous les représentez, il faut vous ressouvenir, mademoiselle Bennet, que l'ami qui est supposé désirer le retard de son voyage ne fait que le désirer, et le demande simplement, sans dire si aucun avantage en peut résulter pour monsieur Bingley. Céder facilement, sans hésiter, à la prière d'un ami n'est pas un mérite à vos yeux, dit Elisabeth. Céder sans conviction ne peut donner une grande idée du jugement de l'un ni de l'autre. Vous me paraissez ne rien accorder à l'influence de l'amitié. Le nom du demandeur, lorsque c'est un ami, justifie la demande, sans qu'il soit besoin de raison ni de conviction. Je ne dis rien particulièrement de la circonstance imaginée pour M. Bingley. Nous ferons, ce me semble, aussi bien d'attendre qu'elle ait lieu pour y appliquer ses principes et en discuter la sagesse. Avant d'en dire davantage, ne vaudrait-il pas mieux examiner, premièrement, l'importance attachée à la demande, puis le degré d'intimité entre les deux personnes ? Oh, sans doute, s'écria Bingley, ces choses sont à considérer, et bien d'autres rapports encore qu'il faudrait soigneusement comparer, comme la taille, la hauteur et l'air des deux personnes, car tout cela, mademoiselle, doit entrer pour beaucoup dans une pareille discussion. Je vous jure que si Darcy n'était pas tellement supérieur à moi, par la taille j'entends, j'aurais pour lui bien moins de déférence. Je ne connais pas d'être plus imposant que Darcy quand il le veut, chez lui par exemple, ou le dimanche au soir quand il n'a rien à faire. Monsieur Darcy sourit, mais Elisabeth, croyant le voir un peu offensé, tint son sérieux. Mademoiselle Bingley ressentit vivement les plaisanteries de son frère et lui fit des reproches. « Je vois votre dessein, Bingley, lui dit son ami. Vous détestez les discussions et vous voulez que celles-ci finissent. »
Cela se peut. Les discussions ressemblent trop à des disputes. Si mademoiselle Bennet et vous voulez différer la vôtre jusqu'à ce que je sois hors du salon, je vous en remercierai. Alors vous pourrez dire de moi tout ce qu'il vous plaira.
Ce que vous désirez n'est pas un sacrifice pour moi, dit Elisabeth, et je crois que monsieur Darcy ferait infiniment mieux de finir sa lettre. Monsieur Darcy suivit cet avis, et sa lettre finie, il pria mademoiselle Bingley et Elisabeth de faire de la musique. Mademoiselle Bingley se leva vivement, et après une invitation polie à Elisabeth de la précéder au piano, ce que celle-ci refusa non moins poliment, mais avec plus de sincérité, elle s'y assit elle-même. Madame Hurst chanta avec sa sœur, et pendant qu'elles étaient ainsi occupées, Elisabeth ne put s'empêcher de remarquer, tout en feuilletant un cahier de musique, que les yeux de monsieur Darcy étaient continuellement fixés sur elle. Elle ne croyait guère pouvoir inspirer quelque intérêt à un homme si supérieur, et cependant la regarder ainsi par un sentiment d'aversion eût été une chose encore plus surprenante. À la fin, elle s'imagina qu'elle attirait son attention par des manières à ses yeux moins aimables que celles des autres. Cette idée ne lui fit pas de peine, elle l'aimait trop peu pour s'embarrasser de lui plaire. Après des ariettes italiennes, mademoiselle Bingley exécuta un air écossais, et monsieur Darcy, s'approchant d'Elisabeth, lui dit « Cet air, mademoiselle, ne vous fait-il pas désirer de danser un réel ?» Elle sourit mais ne fit point de réponse. Il répéta la question, un peu surpris de son silence. « Je vous avais bien entendu, monsieur, mais n'ai pu sur le champ me décider. Vous vouliez, je le sais, me faire dire oui, afin d'avoir la satisfaction de critiquer mon goût, mais j'ai toujours grand plaisir à faire échouer de tels projets. J'ai donc pris la résolution de vous dire que je ne désire nullement danser le réel. » Ainsi, moquez-vous de moi maintenant, si vous l'osez.
Non, en vérité, je ne l'oserai.
Elisabeth, s'étant presque attendue à le fâcher, fut surprise de l'air galant dont il dit ces mots. Elle avait dans les manières un mélange de malice et de douceur qui la mettait, pour ainsi dire, dans l'impossibilité d'offenser qui que ce fût. Et jamais M. Darcy n'avait rencontré de femme pour laquelle il se sentit un goût si marqué. Son cœur aurait pu être en danger si la famille d'Élisabeth eût été plus distinguée, se disait-il en lui-même. Mademoiselle Bingley en vit assez pour devenir jalouse, et son extrême impatience de voir sa bien-aimée Hélène rétablie fut augmentée par le désir de se défaire d'Élisabeth. Elle essaya souvent d'en dégoûter Darcy en parlant de leur mariage comme d'une chose à faire. Elle affectait aussi de lui proposer des plans et de lui vanter le bonheur qu'il trouverait dans cette union. « J'espère, dit-elle en se promenant avec lui le lendemain, que vous ferez entendre à votre belle-mère, après cet heureux événement, les avantages qu'elle trouverait à se taire, et tâchez d'empêcher vos jeunes sœurs de courir après les officiers. Et, si j'ose toucher un sujet aussi délicat, dites à votre belle de se corriger de je ne sais quoi qui approche de l'impertinence. Avez-vous quelque chose encore à me proposer qui puisse ajouter à mon bonheur domestique ? Oui, faites placer le portrait de son oncle Philips dans votre galerie à Pimberley. Mettez-le avec celui de votre grand-père le juge. C'est la même profession, quoique dans des rangs différents. Quant à l'image chérie de votre Élisabeth, il ne faut pas penser seulement à la peindre. Quel art pourrait jamais représenter ses beaux yeux ? Il serait difficile, il est vrai, d'en saisir l'expression, mais leur couleur, leur forme et leurs longues paupières pourraient être rendues jusqu'à un certain point. En ce moment, ils furent joints par Madame Hurst et Élisabeth elle-même. « Je ne savais pas que vous dussiez sortir, » dit Mademoiselle Bingley avec quelque embarras, craignant d'avoir été entendue. « Vous nous avez joué un bon tour de vous sauver ainsi sans rien dire, » dit Madame Hurst. Alors elle prit le bras de Monsieur Darcy, qui déjà conduisait Mademoiselle Bingley. Élisabeth ainsi marchait seule, l'allée n'étant pas assez large pour 4 personnes. Monsieur Darcy sentit cette malhonnêteté et dit « Cette allée est trop étroite, allons à l'avenue. » Mais Élisabeth, qui ne désirait nullement rester avec eux, répondit en riant « Non, non, restez ici, vous formez un groupe charmant et paraissez avec beaucoup d'avantages. » Une 4e figure gâterait le tableau. Adieu. Elle s'éloigna gaiement, pensant avec plaisir que bientôt elle serait de retour à Longbourn. Hélène était déjà assez bien pour quitter la chambre et devait descendre au salon dans le courant du jour.